Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Nous retrouvons aujourd'hui l'une des plus grandes chanteuses que le jazz ait connue, Billie Holiday.
I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. They are goodbyes. Left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on? There without you, you took the best, so why not take the rest? Hey, baby, take all of me.
Eleanora Fagan, née le 7 avril 1915 à Philadelphie. Sa mère, Sadie Fagan, d'origine irlandaise à 15 ans seulement, et son père, Clarence Holiday, 17. Dans Lady Sings the Blues, Billie Holiday, réécrivant son histoire, ajoute quelques années à son père, plus encore à sa mère, et en fait un couple marié. C'est l'une des nombreuses déformations de la réalité que Billie elle-même entretenait, et dont son autobiographie a prolongé les effets. La réalité est un peu moins idyllique. Clarence et Sadie ne se sont jamais mariés. Clarence Holiday ne reconnaît pas l'enfant. Il est guitariste de jazz et passe sa vie dans les clubs la nuit, sur les routes le jour. Sadie, aide ménagère et cuisinière qui se prostitue hélas à l'occasion, ne s'occupe pas de sa fille qui est ballottée entre tante et cousine et est placée dans des maisons de redressement pour jeunes noirs où elle connaît tous les malheurs, y compris le viol et la violence. Une enfance et une adolescence très sombres qui la marqueront à jamais. Une photo, vieille photo, la montre à l'âge de 2 ans en 1917. Elle paraît toute timide, accoudée à un guéridon, une fleur sur sa barrette dans les cheveux et dans sa petite robe blanche à volant. Elle regarde l'objectif avec un regard apeuré, émouvante petite fille en sequette blanche. Sa mère la fait venir à New York en 1928. Billie commence à faire des ménages dans une maison close, de Harlem, où elle chante à l'occasion. Elle acquiert une certaine notoriété comme chanteuse de jazz dans plusieurs clubs. Puis, elle est auditionnée au Log Cabin de Harlem, où elle est engagée comme chanteuse rémunérée au pourboire. Elle prend alors le nom de Billie Holiday, en référence à l'actrice Billie Dove, son image du cinéma muet.
Certain cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, no stalling, falling in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble, get you in a lot of trouble. Baby, damn near.
Grâce à son talent, Billie Holiday croise bien des musiciens, notamment Bobby Anderson, avec qui elle tourne dans plusieurs clubs de Harlem et dont elle devient bientôt la compagne. Elle se contente des pourboires qui s'accumulent lorsqu'elle entonne Traveling All Alone ou Them There Highs que nous venons d'entendre. En 1933, John Hammond, producteur pour Columbia, découvre Billie Holiday dans un club où elle chante par hasard à l'occasion d'un remplacement. Immédiatement convaincu de son talent, il lui ouvre les studios de Columbia pour une session avec un autre jeune musicien sous contrat avec la firme, le clarinettiste Benny Goodman. Ce jour-là, elle enregistre Your Mother's Son in Law, que nous allons entendre, et Riffin's the Scotch, et y gagne $35. Your Mother's Son in Law. L'année suivante, elle chante avec Bobby Anderson à l'Apollo Theater de New York. La salle est à la mode, où l'on vient applaudir les jeunes talents. Mais leur liaison cesse peu de temps après. Bobby est déjà marié. Billie rencontre d'autres musiciens prometteurs, parmi eux Lester Young, engagé par Fletcher Anderson. La chanteuse et le saxophoniste se lient immédiatement d'amitié. Lester la surnomme Lady Day. Billie Holiday le surnomme Président, ou plus brièvement Prez. Elle et lui fréquentent les clubs après leurs engagements respectifs du soir au matin. Billie Holiday chante également avec Duke Ellington, qui l'a choisi pour son court-métrage Symphony in Black, dans lequel elle interprète Saddest Tale. À la même époque, elle entame une liaison avec le jeune saxophoniste Ben Webster. John Hammond programme le 2 juillet 1935 un enregistrement pour la firme Brunswick avec Billie, Webster, ainsi que Benny Goodman, le pianiste Teddy Wilson, le trompettiste John Truchart, le contrebassiste John Kirby et le batteur Cozy Cole. What a Little Moonlight Can Do et Miss Brown to You en ressortent, gravées à la perfection, et figure dans les meilleures ventes de l'année. Tout tout va bien pour Billie Holiday, qui enchaîne les aventures sentimentales et installe sa mère à la tête d'un petit restaurant où souvent elle se retrouve après la nuit pour le petit déjeuner. Elle devient dès lors l'une des vedettes du jazz new-yorkais, à travers les nombreux engagements qu'elle partage régulièrement avec le pianiste Teddy Wilson. Le style de Billie Holiday, intimiste, s'adapte mal aux plus grands shows réservés à Bessie Smith et à ses imitatrices. Peu importe, ses disques avec Lester Young se vendent bien et Billie chante bientôt avec le grand orchestre de Count Basie, puis avec celui d'Artie Shaw. Une chanteuse noire dans un orchestre blanc. La tournée avec ce dernier est pourtant écourtée à cause du racisme des États du Sud, où elle ne peut pas chanter, ni même réserver une chambre d'hôtel, ou encore entrer dans un restaurant avec les musiciens de l'orchestre. What a little moonlight can do! Rentrée à New York, Billie Holiday continue de chanter dans les clubs, grâce aux engagements que lui trouve John Hammond, en particulier au Café Society. C'est à cette époque, hélas, qu'on la voit boire de plus en plus et fumer aussi de la marijuana. Les années suivantes voient Billie Holiday multiplier les enregistrements, les engagements, les succès, avec des musiciens de la stature de Roy Eldridge, Art Tatum, Benny Carter, Dizzy Gillespie, mais elle entame également une liaison avec Jimmy Monroe, pour qui elle quitte le domicile de sa mère avant qu'il ne se marie précipitamment. Son nouveau compagnon est un escroc, doublé d'un drogué. Habitué à l'opium, puis à la cocaïne, avant de se retrouver en prison. Billie Holiday divorce de Monroe et enchaîne à nouveau les aventures jusqu'à sa rencontre avec Joe Egy, un trompettiste bebop qui la fournit en héroïne, charmant. À l'époque même où elle est la première artiste noire à chanter au Metropolitan Opera, où elle signe un contrat en or chez Decca. elle se retrouve sous la coupe de cet homme et dépendante à l'héroïne. Billy en parle sans concession. « Je suis rapidement devenue une des esclaves les mieux payées de la région. Je gagnais $1000 par semaine, mais je n'avais pas plus de liberté que si j'avais cueilli le coton en Virginie. » Dans les clubs, il se murmure aussi qu'elle ne respecte pas ses engagements, qu'elle est souvent en retard, qu'elle se trompe dans les paroles. En 1945, Joe Hegy monte une grande tournée pour Billie Holiday, « Billie Holiday and Her Orchestra ». La tournée est déjà bien entamée lorsque Billy apprend la mort de sa mère, Sadie, duchesse, comme l'avait surnommée Lester Young. Billy est effondrée. Elle sombre dans la dépression. Elle se réfugie un peu plus dans l'alcool et la drogue et écourte sa tournée. I'm a Blue.
Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in my eyes telling you? Am I
Au lendemain de la guerre, Billie Holiday est au plus haut. Elle entame sa collaboration avec le pianiste Bobby Tucker. Ses disques se vendent bien. Elle a signé en 1944 chez Decca. Elle triomphe au Town Hall de New York en février 1946. Et son répertoire s'élargit à quelques chansons indissociables de son personnage. Loverman, Good Morning Heartache, écrite pour elle par Irene Wilson, et ses propres compositions, Fine and Mellow, Billy's Blues, Don't Explain et God Bless the Child, que nous allons écouter maintenant. Elle tourne aussi pour Arthur Lubin dans le film New Orleans, qui réunit de grands jazzmen, dont Louis Armstrong et Woody Herman.
Them that's not want you loose. So the Bible says, and it still is new. Mama may have, Papa may have, but God bless the child.
Au début de 1947, une année noire pour Billie Holiday, son impresario Joey Glaser lui impose une cure de désintoxication dans une clinique privée. Hélas, en vain. Quelques semaines plus tard, elle est arrêtée en possession de stupéfiants et condamnée à un an de prison. Elle fait un scandale. Sa situation financière est catastrophique. Ses royalties ont disparu dans la drogue et les poches des hommes qui l'entourent. Elle sort de prison le 16 mars 1948 pour bonne conduite, mais elle est ruinée. Or, le 27 mars, au Carnegie Hall de New York, plus belle que jamais, la voix épanouie, ses éternels gardenias dans les cheveux, elle chante jusqu'à l'épuisement 21 chansons, plus 6 autres pour les rappels, et c'est un triomphe. Body and Soul.
Oh,
France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré et réalisé par Pierre Ricard, pour vous, dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.